Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. La scène vendredi a sidéré une bonne partie du monde. Volodymyr Zelensky tensé, humilié, menacé par Donald Trump dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Que vous inspire cet échange d'une violence inédite entre deux chefs d'État? L'accord que les Américains veulent imposer aux forceps à l'Ukraine signe-t-il la victoire de Vladimir Poutine? La loi du plus fort va-t-elle désormais l'emporter sur le droit international? On vous attend au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme chaque matin, la rédaction de RFI et des experts répondent à vos questions sur l'actualité. Depuis dimanche, Israël bloque à nouveau l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, alors que la situation humanitaire, justement, y est catastrophique. Le Hamas dénonce un crime de guerre. Rachid, bonjour.
Bonjour, Chantal Leroux. Bonjour à votre invité, bonjour à tous les fidèles auditeurs de la Radio France Internationale.
Merci beaucoup Rachid. À mes côtés en studio, Muriel Paradon, journaliste au service international de RFI, bonjour.
Bonjour.
Rachid, on vous écoute.
Chantal Leroux, alors que la première phase de la trêve se termine, Netanyahou annonce suspendre l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Je me demande alors, quelles conséquences cette décision pourrait-elle avoir dans le processus de paix? Et ensuite, quelle est normalement la deuxième phase du cessez-le-feu?
Alors Muriel, quelles conséquences cette décision du Premier ministre israélien pourrait-elle avoir dans le processus de paix?
Oui, alors on ne peut pas parler de processus de paix, hein, mais plutôt de la mise en application de l'accord de cessez-le-feu qui a été conclu le 19 janvier entre Israël et le Hamas. En effet, la première phase s'est achevée ce week-end avec la libération de 33 otages, 25 vivants et 8 décédés, hein, dont les corps ont été rendus, échangés contre 1700 prisonniers palestiniens. Cette première phase prévoyait aussi un cessez-le-feu temporaire, le retrait de l'armée israélienne de certaines zones de la bande de Gaza et l'entrée massive de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Et c'est cette aide que Benjamin Netanyahou a décidé de stopper dimanche soir. Ça veut dire plus de nourriture, plus de carburant, alors que les habitants de Gaza en ont cruellement besoin. Cette décision, le Premier ministre israélien l'a expliqué dans un communiqué en disant que le Hamas, je cite, « volait ses biens pour financer sa machine terroriste et empêcher la population de Gaza d'en bénéficier ». Alors pour le mouvement islamiste, il s'agit d'une nouvelle violation de l'accord de cessez-le-feu, cet arrêt de l'entrée de l'aide humanitaire. Et puis surtout, Benjamin Netanyahou essaie d'imposer une nouvelle règle du jeu sous pression américaine. Alors qu'on devait entrer dans une deuxième phase de l'accord, le Premier ministre israélien dit maintenant qu'il faut prolonger la première phase, le cessez-le-feu temporaire, de 50 jours, qui couvre le mois du Ramadan et la Pâque juive. Ça nous ramène au 20 avril, période durant laquelle la moitié des otages restants, ils sont 59, devraient être relâchés dès le premier jour, c'est-à-dire maintenant, et le restant des otages serait libéré plus tard si un accord de cessez-le-feu définitif était trouvé. Ce nouveau plan, c'est, dit Benjamin Netanyahou, celui qu'a proposé Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump. Israël accepte cette proposition, mais le Hamas rejette, pour la bonne raison que le Hamas dit vouloir se conformer à l'accord initial conclu avec les médiateurs et qu'il ne faut pas se faire imposer de nouvelles règles en cours de route. Alors c'est un coup de pression sur le Hamas, en tout cas. Netanyahou, hier, a menacé le mouvement islamiste de conséquences, je cite, « inimaginables s'il ne libérait pas les otages bientôt ». Hier matin, la radio publique israélienne Kan a révélé que le gouvernement israélien prévoyait un plan baptisé « plan de l'enfer » si le Hamas ne changeait pas d'avis. Plan qui prévoit notamment une reprise des hostilités. Donc ça peut être ça les conséquences, une reprise des hostilités éventuelles assez rapidement.
Et quelle est normalement la deuxième phase du cessez-le-feu, nous demandait Rachid.
Alors la deuxième phase qui devait entrer en vigueur ces jours-ci devait être négociée en amont. Elle ne l'a pas été, hein, les négociations piétinent. Et cette deuxième phase prévoit, dans l'accord initial, donc le retour de tous les otages, un cessez-le-feu définitif et le retrait de l'armée israélienne de toute la bande de Gaza. C'est ce que réclame le Hamas, la mise en application de l'accord initial, négocié encore une fois par les médiateurs, les États-Unis, le Qatar, l'Égypte. Et puis, il y aura une troisième phase, c'est la reconstruction. On sait que Donald Trump a sidéré le monde entier en proposant que les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza pour en faire une côte d'Azur du Moyen-Orient, en vidant le territoire palestinien de sa population. L'Égypte, elle, qui est aussi médiateur dans ce conflit, propose un plan alternatif qui est de déblayer puis reconstruire Gaza avec l'aide des pays arabes et des pays européens, en gardant évidemment la population sur place. Ce plan alternatif doit être proposé formellement aujourd'hui lors d'un sommet de la Ligue arabe au Caire.
Merci beaucoup Muriel Paradon pour ces précisions. Rachid, merci de nous avoir appelés. Bonne journée à vous. Abdelrazak, bonjour.
Bonjour Madame Chantal et bonjour à toute l'équipe de la Percée de l'actualité.
Vous nous appelez d'Abéché au Tchad et vous vous êtes intéressé à la situation politique en Iran. En ligne justement avec nous, Siavosh Ghazi, correspondant de RFI à Téhéran. Bonjour.
Bonjour Chantal.
Abdelrazak, vous avez la parole. On vous écoute.
Chantal, en Iran, le vice-président Mohammad Javad Zarif a présenté sa démission. Qu'est-ce que pourrait expliquer cette décision? Et doit-on y avoir un lien avec la crise économique qui traverse les pays et qui a mené à la révocation du ministre de l'économie?
Alors Siavosh, d'abord, pourquoi cette démission du vice-président iranien Mohammad Javad Zarif?
Alors en fait, Mohammad Javad Zarif était vice-président chargé des affaires stratégiques, mais surtout ancien ministre des Affaires étrangères qui avait négocié l'accord nucléaire de 2015 avec les grandes puissances. Il a affirmé qu'il avait été forcé à démissionner. Il a expliqué que le chef de l'autorité judiciaire, un religieux conservateur, l'avait invité dans son bureau pour lui demander de quitter son poste. Selon la loi iranienne, les personnes qui ont une nationalité étrangère ou lorsque ils ont des enfants ou une femme qui possèdent une nationalité étrangère n'ont pas le droit d'occuper une position gouvernementale. Or, les deux enfants de Mohammad Javad Zarif, nés aux États-Unis, ont la double nationalité américaine et iranienne. C'est la raison officielle de cette démission. Depuis 6 mois, le conservateur demandait son départ. Il avait présenté une première fois sa démission il y a plusieurs mois, mais le président, à l'époque, avait refusé cette décision.
Alors, que reprochent concrètement les conservateurs à Mohammad Javad Zarif?
Alors, sur le plan politique, les conservateurs reprochent la politique ou la vision de rapprochement voulu par Mohammad Javad Zarif avec l'Occident et même les États-Unis. Il avait expliqué à plusieurs reprises ces dernières semaines ou ces derniers mois que l'Iran devait négocier, donc y compris avec l'administration de Donald Trump, pour trouver un accord sur le dossier nucléaire et alléger ainsi les sanctions internationales, en particulier américaines, contre l'Iran. Or, le guide suprême iranien a affirmé il y a quelques semaines qu'il n'était pas question de négocier avec les États-Unis, car selon lui, cela ne réglera pas les problèmes économiques du pays. Les conservateurs estiment que l'équipe de Mohammad Javad Zarif avait, à l'époque, lorsqu'ils avaient négocié l'accord nucléaire de 2015, fait trop de concessions aux États-Unis et aussi aux pays occidentaux.
Alors, y a-t-il un lien entre cette démission de Mohammad Javad Zarif et la révocation du ministre de l'économie?
Alors officiellement, il n'y a pas de lien direct, mais dans le fait, les deux hommes sont partisans de négociations et même d'un rapprochement avec l'Occident. Les conservateurs, comme le guide suprême, veulent plutôt un renforcement des liens économiques et politiques de l'Iran avec la Russie et la Chine. Le ministre de l'économie a appliqué ces derniers mois une politique libérale qui a fait chuter la valeur de la monnaie iranienne. C'est tout cela que les conservateurs dénoncent. Cela arrive dans un contexte économique et internationale assez difficile. L'inflation dépasse largement les 40% annuellement, et cela depuis maintenant 6 ans ou 7 ans. Et surtout, le président Trump a décidé une politique de pression maximale contre l'Iran pour réduire à zéro les exportations pétrolières de l'Iran, notamment pour amener l'Iran à renoncer à son programme nucléaire. ce que Téhéran refuse pour l'instant. Le pétrole iranien est essentiellement acheté par la Chine. C'est donc un renforcement des conservateurs qui ont écarté deux personnalités favorable au rapprochement avec l'Occident, mais cela intervient dans un contexte où les experts prévoient une aggravation de la crise économique ces prochains mois, en particulier avec la politique de pression maximale qui a été donc décidée et annoncée par le président américain.
Merci beaucoup Siavosh Ghazi pour ces explications. À très bientôt sur l'antenne. Abdelrazak, bonne journée à Abéché. Réarmement de l'Europe, soutien à l'Ukraine. À Londres ce week-end, les dirigeants européens ont resserré les rangs après le lâchage de Volodymyr Zelensky, officialisé vendredi par Donald Trump devant les caméras de télévision. Ismaïla, bonjour.
Bonjour Madame Chantal Leroux et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Mondiale.
Vous nous appelez de Dakar, au Sénégal. Également en ligne avec nous, Ulrich Bouna, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste en géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est et chercheur associé à l'Institut Open Diplomatie. Ismaïla, vous avez la parole.
Après l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche, les dirigeants européens se sont réunis dimanche à Londres et ont proposé un plan de trêve. J'avais deux questions pour ça. Que proposent concrètement les alliés européens dans ce plan?
Alors Ulrich Bouna, donc, que contient exactement ce plan de trêve proposé par les alliés européens?
Alors, c'est déjà un plan de trêve qui essaie de plaire à Donald Trump. Donc, il faut que ce soit un plan rapide, relativement pragmatique et efficace. Donc, dans ce cadre-là, les Européens, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de proposer une première phase qui durerait un mois, qui serait un cessez-le-feu partiel qui concernerait, on va dire, le domaine aérien, le domaine maritime et l'interdiction de frapper les structures énergétiques. Donc, ça permet de capitaliser sur des discussions qui avaient déjà eu lieu, notamment sur les aspects énergétiques qui étaient menés par les pays du Golfe entre la Russie et l'Ukraine. Et ça permet aussi d'avoir un cessez-le-feu relativement facilement monitorable, puisqu'on peut tout à fait savoir qui bombarde qui sur des frappes longue distance, par exemple, et pareil sur le domaine maritime. Donc, ça permettrait finalement, sans avoir d'hommes sur le terrain, ça permettrait de faire un peu de la désescalade, de donner à Donald Trump une espèce d'accord rapide à obtenir, et ça permettrait de monitorer cette situation sans avoir d'hommes sur le terrain, tout en gagnant du temps pour justement préparer un éventuel déploiement de troupes.
Ismaïla, vous vouliez poser une autre question.
Oui, quelles sont les chances qu'il soit accepté par les États-Unis et par la Russie?
Ulrich Bouna.
Alors ça, c'est toute la question. Effectivement, ce plan, donc, il a été prévu pour justement être présenté à Donald Trump et essayer de lui plaire. La question, c'est est-ce qu'effectivement Donald Trump mordra à l'hameçon, hein, pour faire simple. C'est pas sûr. On voit bien qu'effectivement, il semblerait que Donald Trump, et c'est encore dans le sens de ses dernières décisions de couper l'aide à l'Ukraine, c'est qu'il semblerait que Donald Trump se soit déjà grosso modo mis d'accord avec Vladimir Poutine sur les grandes lignes d'un cessez-le-feu qui serait très défavorable à l'Ukraine et qu'il essaie de tordre le bras à Kiev. Donc, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, va sans doute essayer de jouer un petit peu la proximité avec l'allié américain pour essayer de faire un petit peu dévier le paquebot Trump de sa direction, mais ça va être extrêmement compliqué. Quant à Vladimir Poutine, bon, évidemment, lui, il ne souhaite absolument pas que les Européens soient impliqués dans cette histoire, donc il va probablement faire de la résistance. Mais effectivement, le facteur le plus important, c'est Donald Trump. Si Donald Trump est convaincu par ce plan, il a toute l'attitude de mettre la pression sur Vladimir Poutine pour l'amener à accepter ce genre de situation. Si en revanche, Donald Trump persiste dans son idée de faire un deal simplement avec Vladimir Poutine en écartant les Européens et les Ukrainiens, tout ce que pourront faire les Européens, ça ne changera pas grand-chose.
Donald Trump a mis sa menace à exécution. Il a ordonné hier une pause dans l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine, 3 jours après son altercation à la Maison Blanche avec le président Zelensky. Est-ce que l'Ukraine peut tenir sans le soutien américain?
Ça va être compliqué. C'est pas infaisable, hein. Ça va être compliqué. Il y a quand même certaines capacités, notamment en termes d'obus d'artillerie, en termes de missiles antiaériens, qui sont fournis par les Américains, que les Européens auraient beaucoup de mal à fournir, en tous les cas, surtout de façon rapide. Pour l'instant, l'un des aspects, on va dire, les moins négatifs, c'est que pour l'instant, il semblerait que le partage d'informations et de renseignements fait par les Américains, et qui est pour le coup vraiment crucial pour les Ukrainiens, pour l'instant, c'est pas encore affecté. Ça, c'est vraiment ce qui aurait le plus d'impact à très court terme. En revanche, effectivement, donc ça, pour l'instant, heureusement, ça reste, semble-t-il, encore d'actualité. Mais tout arrêt de l'aide américaine ne sera pas complètement compensable par les Européens. Et donc, ça va complexifier encore plus, finalement, la capacité des Ukrainiens à résister. Donc là, il y a quelques stocks hein, par rapport à tout ce qu'a fourni l'administration Biden avant de partir. Mais effectivement, si cette situation devait être amenée à durer dans le temps, cet arrêt de l'aide américaine, effectivement, ça complexifierait encore plus la situation des Ukrainiens. Et il est probable que les Russes essaieraient d'en profiter pour grappiller un maximum de terrain.
Merci beaucoup, Ulrich Bouna, pour ces explications. Ismaïla, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à Dakar. On termine cette première partie d'appel sur l'actualité avec un nouveau décret signé par Donald Trump, un décret qui fait débat. Marius Trésor, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à toutes les petites appels sur l'actualité.
Vous nous appelez d'Abidjan en Côte d'Ivoire. En ligne avec nous, Françoise Coste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et professeure d'études américaines à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Marius Trésor, on vous écoute, c'est à vous.
Ok, Donald Trump vient de signer un décret reconnaissant l'anglais comme la seule langue officielle des États-Unis. Alors Chantal, je voudrais savoir, pourquoi les États-Unis n'avaient pas de langue officielle avant ce décret?
Françoise Coste, c'est vrai qu'il paraît surprenant ce décret?
Et oui, parce que ce décret rompt avec une tradition de presque 250 ans, donc c'est deux siècles et demi, puisque en 1776, donc quand les États-Unis sont devenus indépendants, c'était avant des colonies britanniques, et quand ils se sont donc autoproclamés pays indépendants et qu'ils se sont dotés d'une constitution, personne à l'époque n'a demandé à inclure dans la constitution une mention qui dirait que comme le français est la langue de la République, voilà par exemple en France, que l'anglais est la langue de la République aux États-Unis. Alors que ils auraient pu le faire à l'époque parce qu'il y avait une très grande partie de la population qui ne parlait pas anglais, justement. On l'oublie parce que c'était il y a très longtemps, mais une part importante de la population dans les colonies britanniques devenues États-Unis à l'époque était par exemple d'origine allemande. Donc l'Allemagne n'existait pas, mais c'était des gens qui venaient de ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, et l'allemand était leur langue maternelle, ils ne parlaient pas du tout anglais. Donc ils auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait parce que, et ils avaient raison, ces pères fondateurs du pays, parce que les deux siècles suivants leur ont donné raison, l'idée c'était que les États-Unis allaient accueillir des gens du monde entier. Donc d'emblée, il y avait cette idée que ce serait un pays d'immigration et que ces gens, au fur et à mesure, apprendraient la langue du pays, la langue majoritaire, l'anglais. Et que ce n'était pas la peine d'en faire une législation, que le temps marcherait, que la culture serait assez puissante et attrayante pour convaincre les gens de parler anglais, la langue majoritaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Marius Trésor, vous avez une autre question pour Françoise Coste.
Oui, oui. Qu'est-ce que cette décision va apporter comme changement ?
Françoise Coste.
Alors, c'est une très bonne question. Déjà, il y a un changement politique, enfin symbolique, on va dire. C'est-à-dire que les gens qui veulent imposer aujourd'hui l'anglais comme langue du pays, c'est vraiment des gens issus, comme Trump, du mouvement anti-immigration qui s'est mis en place, on va dire, au tournant du 21e siècle. C'est-à-dire quand l'immigration, en particulier la vague contemporaine d'immigration qui vient en particulier d'Amérique latine, est vraiment devenue très visible, et où on a aujourd'hui, c'est vrai, des dizaines de millions de gens aux États-Unis dont la langue maternelle est l'espagnol. Et c'est vrai que si vous marchez dans la rue aux États-Unis, dans des magasins ou quoi, vous allez entendre parler des gens espagnols. Quasiment partout maintenant, pas qu'en Californie ou au Texas. Et donc les militants anti-immigration, à partir des années 1990-2000, ont dit que c'était une atteinte insupportable à la culture américaine et qu'il fallait que ces gens parlent anglais. D'où ce mouvement qui n'avait pas vraiment beaucoup de traction jusqu'à la semaine dernière, où Trump, qui se veut bien sûr le porte-parole de ce mouvement anti-immigration, a signé ce décret. Mais justement, je réponds à la question, c'est un décret, c'est pas une loi. C'est-à-dire que c'est un décret présidentiel, le président peut exprimer ce souhait, mais dans les faits, personne ne sait exactement ce que ça va changer, parce que à la limite, ça pourrait, comme le président est chef du gouvernement fédéral, il aurait pu, dans son décret, dire que dorénavant, toutes les formulaires publiés par le gouvernement fédéral pour demander un passeport ou des aides publiques ou quoi, devraient être écrits seulement en anglais et pas en espagnol. Ça pourrait arriver. Sauf que, si j'ai bien compris, le décret qu'il a signé la semaine dernière, Trump, ne précise même pas ça, ne parle pas de la langue des formulaires administratifs. Donc c'est vraiment pour l'instant, on est dans l'ordre du symbolique, pas encore dans l'ordre du concret.
Merci beaucoup Françoise Coste d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes historienne et professeure d'études américaines à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Marius Trésor, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à vous deux. Dans quelques instants, la suite de le journal d'abord et ensuite on se retrouve pour le débat d'appel sur l'actualité. On va revenir sur cette altercation vendredi, altercation d'une violence inédite dans le bureau de la Maison Blanche entre Donald Trump, J.D. Vance et Volodymyr Zelensky.